Voyez donc, il est diablement efficace, le médecin contrôleur de la société privée là qui travaille pour la Sécu. Il a vraiment réponse à tout, hein. Oui, alors bonjour, pour un contrôle médical. Ah oui, effectivement, il vous manque un pied, vous avez été amputé. Oui, mais dites-moi, cher monsieur, c'est fonctionnel? Ce n'est pas une maladie, ça, c'est fonctionnel. Alors, vous aviez un arrêt de 6 mois? Oui, bah vous reprenez demain, c'est bon. Vous travaillez où déjà? Ah, peintre en bâtiment, sur des échafaudages. Oui, bah écoutez, c'est bon, hein, le tout c'est d'avoir bon pied, bon oeil. Enfin, bon oeil, votre vue est bonne, voilà. Allez, bon courage.
Oui, bah, moi j'appelle parce que je viens d'écouter l'émission là sur les contrôleurs de maladies. Et c'est vrai, nous on peut être que des escrocs de toute façon, hein. On n'a pas le droit d'être malade, on peut être que des escrocs. Mais je me souviens dans une émission précédente, je crois que ça devait être les femmes de les veuves de mineurs, et tout le monde soutenait les grévistes, sauf dans le village le boucher, et plus personne n'allait chez le boucher. Et donc il avait été obligé de se tirer. Et ben tous ces docteurs là qui contrôlent, ils doivent bien avoir des cabinets pour recevoir leurs clients. Il n'y a qu'à plus aller chez eux et puis c'est tout. Enfin moi c'est une idée, je dis ça comme ça. Et puis pour ma part, de toute façon, moi je connaissais ce système et il était évident pour moi et sûr pour moi que ils rentraient pas dans ma maison. Ces gens-là, ils restaient sur le pas de la porte. S'ils voulaient m'ausculter, c'était sur le pas de ma porte. Mais ils rentraient pas chez moi. Alors après, ils me font déshabiller sur le palier mais enfin bon, hein, peu importe. Mais il faut pas les faire rentrer, ces gens. Il faut pas. Voilà. Allez, bon courage à tout le monde parce que on a, pour reprendre une expression, on n'a pas le cul sorti des ronces. Hein. Allez, ciao, portez-vous bien.
Bonjour Daniel, bonjour les AMG. Je voulais revenir sur votre émission « C'est pour un contrôle médical ». Je voulais souligner quand même le bien fondé du contrôle médical lorsque l'absentéisme médical non fondé, bien entendu, est la conséquence d'un conflit latent entre le salarié et l'employeur. À mon sens, là, le contrôle médical prend, c'est le cas de le dire, tout son sens, parce que quand même profiter d'un système solidaire comme la sécurité sociale, c'est d'une grande lâcheté. Voilà, Aurélie Belfort.
Voilà, j'appelle en réaction à l'émission d'aujourd'hui concernant le contrôle des gens qui sont en arrêt de travail. Alors, je suis d'une famille où tout le monde était à droite, où on avait le culte du travail, enfin eux, pas moi. Et j'ai épousé un garçon qui est d'une famille de gauche, mais eux aussi, ils ont le culte du travail. Donc, les gens qui sont feignants, les gens qui s'arrêtent de travailler pour un pet de travers, pour un oui, pour un non, ils étaient mal vus, aussi bien de mon côté à moi, famille de droite, que du côté de mon mari, famille de gauche. Et alors finalement, je me suis posé la question dans votre reportage, ces gens qui étaient en arrêt de travail, une fois sur deux, ils étaient forcés plus ou moins de reprendre le travail, est-ce que vraiment ces gens trichaient? On n'a pas su finalement, on a vu bon que ce médecin, il était quand même un peu rude, un peu, enfin bon, bref. Mais finalement, bon, est-ce que les gens étaient vraiment en train de d'arnaquer la sécurité sociale, quoi? Voilà, c'était ma question. Merci. Continuez, c'est Jocelyne de l'Ardèche. Au revoir.
Oui, bonjour. C'est un médecin à l'appareil. Je suis évidemment très choqué par l'émission pour un contrôle médical, enfin, de ces maisons de contrôle médical privé qui viennent en appoint du contrôle de la sécurité sociale. Hein, c'est à la sécurité sociale de faire son boulot, pas au contrôle privé. Je pensais pas que c'était possible. Et ça m'indigne vraiment. Et puis les médecins qui font ça, je veux dire, là il y a une caricature, hein. Vous avez donné une caricature de médecin, je suis pas d'accord. Déjà, nous, on a quand même un serment d'hypocrate, enfin d'hypocrite dans ce cas-là. Serment, normalement, il faut respecter les gens. Là, il n'y a aucun respect des gens. Le médecin arrive, il les examine même pas. De toute façon, il faut qu'il reprenne le travail le lendemain, sauf s'il le voit évidemment avec un pied dans le plâtre, et encore, je suis même pas sûr. Enfin, c'est n'importe quoi, quoi. J'ai été vraiment choqué qu'on en arrive à ce point-là. Effectivement, il y a des abus, c'est vrai, il y en a qui abusent pas mal, mais bon, là, c'est un peu exagéré comme répression, c'est vraiment du n'importe quoi, et je suis choqué qu'il y en a qui se font du fric là-dessus. Voilà. Ben, au revoir et bonne continuation.
Merci, on est un peu étonné d'apprendre quelque chose comme ça à des médecins, à un médecin, mais beaucoup d'autres médecins nous ont adressé des messages en disant « mais on savait pas ça, moi je savais pas ça », d'autres pour dire à quel point ils connaissent au contraire et comment ça les indigne, qu'est-ce qui les indigne, eh bien c'est, et aussi bien sûr les auditeurs, les patients, etc., c'est ces contrôles des arrêts maladie, ces contrôles qui semblent vraiment abusifs, privatisés, qu'ils sont dans autant de petites officines et qui emploient des médecins qui vont faire ces contrôles à la place de la sécurité sociale, à la place des inspecteurs de la sécurité sociale qui sont trop peu nombreux, pas assez nombreux. Donc c'est des officines qui emploient des médecins qui vont faire ces contrôles, et il se trouve que la plupart du temps, puisque ces officines travaillent pour les directions, pour les patrons, il se trouve que presque à tous les coups, eh ben on remet le patient au travail. C'est une façon de soupçonner, d'installer le soupçon sur le malade et d'en faire un parasite, quoi. Voilà, une grosse feignasse mollasse. Alors, bien évidemment, qu'il est tout à fait normal ça fait partie aussi des messages que vous avez adressés. On a dit, mais c'est normal qu'il y ait des contrôles, abuser de cette solidarité, etc. C'est pas bien. C'est tout à fait vrai. Mais vous avez compris hier dans quelles conditions tout cela se passe. Mais aujourd'hui, on continue. Deuxième volet des contrôles médicaux. C'est pour un contrôle médical. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux nombreux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la BASI. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Bonjour, je voudrais réagir à votre émission sur les contrôles d'arrêt maladie. Donc personnellement, j'ai bénéficié d'arrêt maladie pour ma première grossesse, en menace d'accouchement prématuré avec un travail pas facile. J'étais prof remplaçante en zone classée zone violence, mutée à 4 mois de grossesse dans le 9-3, alors que mon conjoint agriculteur est en Bretagne où nous vivons. J'ai pas eu d'aménagement d'emploi du temps parce qu'on m'a bien expliqué que la grossesse c'est pas une maladie. Et donc je crois que bon nombre d'arrêts maladie ont lieu pour des grossesses ou en post-natal, parce que le congé maternité en France est ridiculement court. Pour un premier enfant, on a 6 semaines avant et 10 semaines après. Alors je sais pas comment on peut gérer la fatigue physique en fin de grossesse quand on travaille jusqu'à presque 8 mois de grossesse, et comment on peut avoir une bonne récupération alors que l'enfant fait pas ses nuits, et assurer un allaitement pendant 6 mois comme le préconise l'OMS, alors qu'on doit retourner au taf au bout de 2 mois et demi. Il faut pas s'étonner du taux de dépression postpartum, quoi. La France, c'est un des pays d'Europe où le congé mater est le plus court. Et moi, je crois qu'il faut du temps pour faire un enfant. Il faut du temps pour le faire venir au monde et nouer avec lui une relation de confiance où il se sente en sécurité. Avoir le temps de bien accueillir son bébé, et entre parenthèses, de récupérer de la grossesse et de l'accouchement, c'est pas rien. C'est baisser à terme aussi le nombre de futurs délinquants ou dépressifs, par exemple. Ça, j'en suis convaincue. Voilà, c'était mon coup de gueule. C'était une auditrice de Bretagne. Je vous remercie de votre émission et je vous embrasse. Au revoir.
Oui, bonjour, c'est Sophie d'Aveyron. Je viens d'écouter l'émission et je voulais juste rectifier un petit truc par rapport à ce que disait une personne au début d'émission au sujet des causes de l'augmentation des arrêts de travail. La personne a demandé si c'était à cause des salariés ou des médecins. Moi, je me demanderais plutôt si ce n'est pas plutôt à cause des patrons, que ce soit bien sûr au point de vue relationnel ou alors façon de travailler. Je pense plutôt qu'il faudrait mieux de se remettre en question, et je pense que beaucoup de salariés resteraient plutôt à travailler à l'entreprise plutôt que rester chez lui pour des causes X ou Y, que ce soit parce qu'il a mal au dos, parce qu'il est mal équipé, ou que ce soit psychologiquement, comme il y a eu pas mal de personnes qui ont fait ressenti ça. Voilà, donc c'était juste pour dire ça. Moi, 8 ans, j'étais peut-être 8 jours en maladie, ça m'a pas pour autant servi, puisque je suis actuellement licenciée. Donc voilà, allez, bon courage à tout le monde et à bientôt.
Les retraités de l'Union syndicale et solidaire des Sud vous invitent à une réunion sur la maison des Baba Yaga ou l'art de bien vieillir avec Monique Bragard, une des 3 Baba Yaga qui avec ses amis a conçu une maison de retraite autogérée à Montreuil. La réunion a lieu le 27 novembre 2008 à 16h30 à la Manufacture à Nantes, boulevard Stalingrad, tram numéro 1, bus 12, arrêt Manufacture. Merci, venez nombreux pour faire connaissance d'une autre façon de vieillir. Au revoir.
Oui, bonjour Daniel, c'est Gérald des Vosges. Voilà, je voudrais faire part d'un projet qui est en train de voir le jour, puisqu'il s'agit d'un spectacle secret de perles, un conte japonais, qui aura lieu le samedi 15 novembre au centre culturel de la petite ville de Remiremont dans les Vosges. Alors ce spectacle, c'est toute une aventure. C'est un spectacle donc tout public, réalisé par l'association Melodia, donc de la région parisienne, et avec la particularité de ce sont 16 comédiens déficients intellectuels donc qui jouent. Merci.
Ah, il est toujours rigolo et pathétique de voir un idiot se piéger tout seul. Monsieur Darcos, comment vous, qui dit-on, avez été prof? Franchement, on a du mal à le croire. Comment pouvez-vous ne pas voir que, en créant une agence chargée de veiller l'opinion, vous obligez les profs, les chercheurs et les journalistes honnêtes, car il en reste, à porter plainte contre vous pour tentative d'intimidation? Intimidation de l'usage de la première et de la plus sacrée des libertés républicaines, à savoir celle de la liberté d'opiner. Comment en effet des profs qui affichent et enseignent les valeurs de la devise républicaine « liberté, égalité, fraternité » pourrait-il accepter qu'il existe une telle agence qui puisse payer une somme astronomique avec leurs impôts à l'heure où il manque si cruellement ailleurs? Comment donc des profs dignes de ce nom pourraient-ils accepter d'enseigner une valeur que leur ministre serait le premier à piétiner ouvertement? La réponse va de soi pour toute personne dotée d'un petit cerveau et d'un sens des valeurs minimales. Un vrai prof civique, comme un vrai chercheur et un vrai journaliste honnête, est obligé de combattre ouvertement une telle ignominie s'il veut continuer à se regarder dans la glace chaque matin. Et cela non pas pour devenir président, mais pour simplement pouvoir dire « je peux regarder mes enfants dans les yeux ». Lionel Goutel, Institut à Marseille.
Les arrêts maladie, ils coûtent chaque année 7 milliards d'euros à la sécurité sociale. Avec 231 millions de jours d'arrêt par an, la France détient le record européen. Un chiffre d'autant plus vertigineux que d'après la CNAM, près d'un arrêt sur cinq est injustifié. Problème, par manque de moyens, la Sécu contrôle rarement les arrêts maladie inférieurs à 2 mois.
Le laisser-aller un petit peu de la sécurité sociale elle-même a tout de même entraîné un développement des contrôles privés faits par les employeurs eux-mêmes.
Ne laissez plus l'absentéisme abusif pénaliser votre entreprise. Contrôle médical, Medivérif.
Bonjour monsieur, c'est pour un contrôle médical. C'est pour un contrôle médical. C'est pour un contrôle médical. C'est pour un contrôle médical.
C'est Daniel Mermet avec Renaud Lambert, c'est là-bas si j'y suis, et c'est pour un contrôle médical.
Flight number 2, arriving from New York.
Un créneau porteur. Pour les patrons, la sécurité sociale fait preuve de laxisme dans le contrôle des arrêts maladie. Alors depuis quelques années, des cabinets privés de ce genre exploitent à fond le filon. Pour cette société de contrôle privé, une contre-visite médicale sur 2 débouche sur un arrêt de travail injustifié. Chaque visite est facturée 95 euros à l'employeur. 40 euros pour le médecin, 55 euros pour le cabinet privé. Cette petite entreprise ne connaît pas la crise. En 3 ans d'existence, son chiffre d'affaires a été multiplié par 10, 560 000 euros en 2006. Pourquoi autant d'arrêts maladie sont-ils abusifs? Qui est responsable de cette dérive? Les patients ou les médecins?
Franck Charpentier, patron de Medivérif.
Alors, en termes de clientèle, on travaille à vraiment avec un panel extrêmement large. C'est-à-dire que j'ai des clients privés, j'ai des clients publics, par exemple des grands hôpitaux ou certains ministères, voilà.
Dans le public, c'est assez étonnant. Enfin, vous parlez d'hôpitaux, par exemple, c'est assez étonnant puisque c'est quand même les professionnels du diagnostic médical. Mm-hmm. Y a pas un paradoxe là que des hôpitaux fassent appel à vous?
Alors, ce que nous, on constate aujourd'hui, c'est que les hôpitaux, en termes de taux d'absentéisme, et c'est nos clients des RH des hôpitaux qui nous l'indiquent, sont fortement touchés par l'absentéisme. Ils ont des taux d'absentéisme qui sont, je vous ai parlé de la moyenne qui se situait autour de 5% tout à l'heure, les hôpitaux sont régulièrement entre 10 et 15% d'absentéisme. Voilà, ça reste parmi nos bons clients, les hôpitaux.
est responsable ? Demande Charles Villeneuve, l'ineffable Charles Villeneuve. Le patient ou le médecin ? Hier matin, je faisais mes courses à la supérette au coin de ma rue et je suis copain avec les vendeuses, elles sont adorables. Il y en a une qui s'appelle déjà Obamette parce qu'elle est métisse, alors ses copines l'appellent Obamette. Elle est jolie comme tout. Mais là, elle allait assez mal, elle avait la fièvre, elle était mal foutue, elle couvait quelque chose, ça allait pas bien. Et je lui dis, mais pourquoi vous êtes venu travailler ? Oh, oh, oh. Parce que, ben oui, mais sinon je vais me faire virer. Ça rentre pas en ligne de compte dans ces calculs et dans cet absentéisme. Combien de tricheurs dans cette affaire d'absence et de congés pour maladie, et combien viennent bosser quand même, d'abord parce que par zèle, par attachement au travail, parce qu'il faut que le travail se fasse, enfin on connaît tout ça, et puis aussi parce qu'on a peur de se faire virer. On est quand même dans une époque de grande précarité et de trouille de perdre son boulot, surtout avec la vague de licenciements annoncés, qui déstabilise encore plus et qui fragilise encore plus et qui augmente encore l'insécurité sociale. Alors voilà, vous avez compris, ces officines se sont multipliées ces dernières années, employant des médecins qui ont pour but, vous savez, c'est quand même assez bien payé, autour de 40 euros la visite, et d'après des indications qu'on a, c'est mieux payé que ça encore, qui consiste à aller chez quelqu'un, toc toc toc, c'est toi, un contrôle médical, examiner ou ne pas examiner, et astreindre la personne à reprendre le boulot dans les plus brefs délais. Si vous avez été mis en arrêt de travail, c'est un médecin qui a décidé. Donc ce médecin, employé par une boîte comme celle-là, comme Medivérif, est en contradiction avec l'autre, avec le médecin traitant, avec celui qui a donné l'arrêt maladie. Il y a comme une contradiction là, non ? Entre, comme disait ce médecin dans le message, entre hypocrite et Hippocrate. Alors qui est responsable, le patient ou le médecin ? Ou le travail, ou l'époque que nous vivons. Question peut-être en partie résolue d'ici à 16h dans la botte si j'y suis. C'est pour un contrôle médical.
C'est pour un contrôle médical. C'est pour un contrôle médical. À quel étage êtes-vous ?
C'est une chanson sans calcium, une chanson à la gomme qui manque de vitamine.
C'est une chanson à virus,
une chanson satanée.
Elle est épouvantable.
C'est une chanson pas dans le vent qui a besoin de fortifiant tellement qu'elle est minable.
Les paroles sont squelettiques,
la musique rachitique,
pas question que ça balance.
C'est une chanson sans gimmick,
complètement lymphatique,
c'est presque une ordonnance.
C'est une chanson pas dans le coup,
c'est un genre de rock mou,
pas pour le hit parade. C'est une chanson à aimer pour maison de santé, une triste salade.
Le seul avantage qu'elle a,
cette chanson rappe la plat,
il est sur la pochette.
Vous ne courez aucun risque, découpé sur le disque,
la petite vignette.
Découpez-la soigneusement,
postez-la sur le champ,
faites-vous porter pas le, et vous serez, croyez-moi, tout. tous remboursés par la sécurité sociale.
Docteur Ernaud, médecin Medivérif.
Alors ici, je n'ai pas le digicode. Enfin, on est obligé d'attendre, on va attendre.
Vous connaissez le patient, ses symptômes?
Non, pas du tout. Je sais simplement qui est son employeur, mais je ne connais pas ses intentions. C'est l'hôpital de Saint-Denis.
Ah, c'est l'hôpital Saint-Denis qui est l'employeur?
Oui, sans doute le DRH, quoi. Je sais également à peu près son âge, parce que sa date de son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale est écrit sur la feuille. Il est né en 81. Donc il est tout jeune.
D'accord. Il sait qu'il va avoir votre visite aujourd'hui?
Non, il n'est pas prévenu.
Voilà une dame.
On va lui demander de nous ouvrir. Merci madame. Je dois voir un certain monsieur Bekti ici. Monsieur Bekti, Soufiane.
Soufiane, il est là, parce qu'il s'est blessé.
Oui, c'est ça.
Oui.
Eh bien, on a la chance de vous trouver, parce que je n'avais pas le digicode. C'est pour un contrôle médical. C'est pour un contrôle médical. Monsieur, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Alors, je suis médecin.
Oui.
Je fais partie de la société Medivérif. Je suis mandaté pour vous examiner parce que vous êtes en arrêt de travail.
L'accident de travail, tout à fait.
Votre employeur, je ne connais pas. Je connais encore moins ses intentions. Mmh. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé?
Je suis tombé de la cheville au travail. Parce que je travaille à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis.
Oui. Bien, monsieur, montrez-moi donc. C'est le genou?
Non, c'est la cheville, monsieur.
À quel endroit?
Cette cheville ici.
Ils ont gardé la radio?
La radio toujours.
Oui,
le médecin qui m'a regardé m'a dit que c'était une succession d'entorses à la cheville.
Parce qu'une entorse, ça ne se voit pas à la radio. Hein.
Écoutez, moi je suis pas médecin.
La radio est faite pour s'assurer qu'il n'y a pas de fracture.
Oui, moi, en tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit, je suis pas médecin.
Et s'assurer qu'il n'y a pas ce qu'on appelle le diastasis. Détendez-vous bien. Laissez plier le genou.
Là, je l'ai mis pour la mettre au fouet. Attendez. La douleur est plus... Ah là, ici, là. Ah ouais, là, juste en dessous, là. Comme vous avez touché, c'est une douleur atroce.
Là aussi?
C'est vrai, ouais.
Là, vous avez mal?
À ce niveau-là, tout à ce niveau-là.
Vous venez de le voir, il n'y a pas que les sociétés privées qui contrôlent les arrêts maladie de leurs salariés. De plus en plus d'établissements publics ont recours à ces contrôles médicaux d'un nouveau genre.
Bon nombre de sociétés qui ont fait appel à nos services, qui font du contrôle régulier, systématique, constatent une diminution de 30% de leur taux d'absentéisme. Il y a la peur du gendarme, il y a le côté répressif qui joue derrière, et puis il y a une prise de conscience aussi, ça leur permet de se rendre à l'évidence que bon ben quand on a un petit bobo à la tête, on est capable de prendre un cachet d'aspirine et d'aller travailler, et tout se passe bien.
Votre entorse vraiment a l'air tout à fait bénigne. Il n'y a pas eu d'ecchymose, il ne s'était pas enflé du tout, aucun édème, j'ai pas trouvé des points douloureux, je trouve même que l'arrêt de travail est un peu long. Moi, je trouve qu'il est long.
Je ne décide de rien, monsieur.
Non, parce que moi, je dois avoir des arguments pour dire que l'arrêt est justifié ou pas. Sans édème, sans ecchymose, radio normale.
Pas
d'argument.
Pas radio normale.
Sur la radio, on voit pas l'entorse.
Ah non, moi, je suis en tout cas, je ne suis pas médecin. Je suis qu'un simple administratif aux urgences. Là, je suis quand même à remettre les choses en place. Je ne décide de rien. Le médecin qui m'a vu a vu une entorse. Ils étaient sont trois. Il y a un interne plus deux médecins.
Mais
deux,
je conteste pas.
Deux médecins orthopédistes.
Monsieur Roy, lui, il est pas médecin.
Orthopédiste. Donc je suis désolé. Mais je tiens les mails. Je vais mettre les choses en place.
Je ne conteste pas votre entorse.
Non, mais vous.
Je réponds à la question aujourd'hui. Aujourd'hui, vous n'avez plus aucun signe d'entorse.
Ah, aujourd'hui, j'en sais rien. Moi, là, vous m'avez touché. J'ai très très mal. Hein. C'est toute cette partie-là. J'ai très très mal. Vous m'avez touché. Ça m'a fait très très mal. Désolé.
Écoutez, monsieur, moi, j'ai pas d'argument pour dire que l'arrêt est justifié. Vous m'excuserez, parce que vous n'avez pas de signe d'entorse aujourd'hui.
J'ai le signe de quoi, alors? J'ai mal pourquoi?
Vous avez une douleur. Votre médecin vous donnera peut-être un médicament de plus, je ne sais pas. Non, mais je ne peux pas dire que l'arrêt aujourd'hui est justifié pour entorse. Il est peut-être justifié pour autre chose, mais pas pour entorse. Et moi, je réponds simplement pour l'entorse.
D'accord. Et là, concrètement, qu'est-ce qui va se passer?
Eh bien, concrètement, aujourd'hui, je ne peux pas dire que vous devez continuer l'arrêt de travail.
Eh oui, Soufiane ne comprend pas le bon docteur Ernaud, qui, en très très peu de temps, vous avez vu le talent extraordinaire, a compris toute la situation, et donc remet ce garçon au travail. Dans l'enquête qu'on a faite, que Renaud Lambert a faite, en accompagnant le bon docteur Ernaud, eh bien, tout le monde reprend le travail. Alors, il n'y a que des gens qui trichent. Il n'y a que des gens qui trichent. Tout est autour du mot absentéisme abusif. Absentéisme abusif. Là, c'est un pléonasme. Absentéisme, c'est être absent de façon illicite. Sinon, c'est l'absence. Il y a un droit à, lorsqu'on est malade, blessé, etc., à arrêter le travail. Ça, c'est un droit, ça fait partie, c'est clair. Et l'absentéisme, c'est la tricherie. Sauf qu'on met, sous les chiffres absentéisme, l'ensemble de ceux qui ont arrêté de travailler pour des raisons évidentes et tout à fait légales et justes. Vous comprenez l'astuce? Alors ça, chez Medivirif, quand on parle d'absentéisme abusif, on triche sur les chiffres. On a compris, c'est l'intérêt d'un certain nombre d'entreprises, de patrons, de faire de la, comme on dit, comme on vient de l'entendre, de la peur du gendarme, du répressif sur les salariés. En fait, les chiffres les plus couramment admis sont de 6%. Il y aurait 6% de véritable absentéisme, c'est-à-dire d'absence au travail abusive, ou d'arrêt de travail abusif. Ça ne dépasserait pas 5 à 6%, sachant que l'ensemble de la fraude fiscale dans notre pays est autour de 350 millions d'euros chaque année, toute fraude sociale comprise, pas seulement la maladie. C'est donc un chiffre important, mais c'est un chiffre, si vous comparez avec n'importe quel autre, des chiffres qui nous tombent dessus chaque jour, dans les détournements, les paquets fiscaux, etc., c'est quand même un chiffre qu'il faut relativiser. Alors, Soufiane, il a pas envie de se laisser faire, contrairement à ceux qu'on a rencontrés hier, qui étaient tout passifs après la visite du bon docteur Ernaud. Soufiane ne va pas se laisser faire.
Alors, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire, mon médecin?
Ou reprendre le travail?
Non, mais attendez, faut pas tout mélanger quand même. Il y a des gens honnêtes, il y a des gens qui travaillent depuis moi, ça fait 2 ans que je travaille, c'est pas le premier jour où je me blesse, où je dis aïe, qu'on se pointe et qu'on me dit, attendez, vous avez pas d'argument valable pour avoir un autre arrêt de travail. Attendez, moi, c'est quand même ma santé, je vais pas reprendre pour faire plaisir aux gens, ou à la sécu, ou quiconque, je m'en fous. Moi, au jour d'aujourd'hui, si ma cheville ne pas guérit de façon correcte, tous les jours que Dieu fera, je peux marcher, me tordre la cheville comme ça.
Monsieur, je ne comprends pas que vous ayez si mal, alors que je n'ai trouvé aucun symptôme. Il faut certainement...
Quel symptôme, monsieur?
Je ne conteste pas.
Donc voilà, vous ne contestez rien, mais pour l'instant, vous contestez tout. Vous contestez rien ce que je dis, rien là, rien au fait, mais vous contestez mon arrêt de travail, comme par hasard. C'est le médecin des urgences qui a signé cette feuille. Alors, allez voir le médecin des urgences. Pourquoi on vient me voir moi et on me réveille un vendredi?
Voyez le médecin qui vous a fait le certificat d'arrêt de travail. C'est la seule solution.
Vous venez comme ça, c'est la seule solution. Bah écoutez.
Il est parti, il est tranquille. Ça vient.
Ça commence à taper sur le système français de base.
C'est la seule solution, monsieur.
Non, mais il n'y a pas de seule solution.
Il faut de nouveau voir le médecin aujourd'hui.
Il n'y a pas de problème, j'irai aller le voir.
Allez, au revoir, monsieur.
Au revoir, monsieur.
Il y avait une mise en scène là, qui ne me plaît pas. Alors, le résultat de mon examen. Donc, j'ai coché la case. L'arrêt n'est plus justifié. Le salarié est apte à reprendre son activité professionnelle. À propos de cet arrêt de travail, deuxième question.
J'ai coché reprise anticipée de l'activité professionnelle le 7 juin 08.
C'est quand ça? C'est lundi?
Demain.
Demain.
Car aujourd'hui, je n'ai trouvé aucun argument, je n'avais aucun argument pour dire que l'arrêt était encore justifié. De toute façon, il a bien compris ma décision.
Le mec, alors pour moi, c'est même pas un médecin.
Il devrait être à la retraite, lui.
C'est même pas un médecin.
Déjà, juste à sa voix.
Alors, voilà, monsieur, le docteur Ernaud est reparti, et moi, je suis revenu dans le bâtiment. J'ai frappé à la porte, vous avez bien voulu me rouvrir, monsieur. Alors voilà, vous venez de recevoir la visite de docteur Ernaud. Il vous a fait mal à la cheville, et il vous a remis au travail. Vous reprenez le travail demain.
Écoutez, apparemment, ce monsieur a des dons du ciel. Personnellement, écoutez, il m'a tordu la cheville, il m'a fait très très mal. Mais apparemment, selon lui, je suis guéri. Moi, je m'attendais à ce genre de truc. Je m'attends à tout, de toute façon. Lorsqu'une personne vient pour contester quelque chose, c'est sûr que la personne n'ira pas dans votre sens. Quoi qu'il arrive, vous pouvez avoir la jambe ouverte, il ira pas dans votre sens. Donc, moi, ce que je trouve bizarre, c'est que la personne puisse venir mettre en doute des gens. Je sais même pas s'il a un dossier, s'il a un récapitulatif de tous mes états de service qui se permettent de mettre en doute ma parole en touchant mon pied. Enfin, c'est ça le pire. Juste en touchant mon pied.
Ça se voyait que j'étais dans ma chambre. J'entendais le ton de sa voix. J'ai rien vu de la scène.
Vous êtes la petite sœur, c'est ça?
Je suis la petite sœur, ouais. Je suis la petite sœur.
Et vous pensez que son boulot, c'est quoi?
C'est de mettre que les gens ont tort, que c'est pas vrai, que, en fait, c'est de gagner de l'argent sur le dos des gens. Moi, j'étais dans ma chambre, je voyais pas la scène, j'entendais. Déjà, le ton de sa voix, il aurait pu sonner et dire, vous êtes en arrêt, c'est pas vrai, il serait reparti direct. Ouais, il aurait pu le faire. Franchement, il aurait pu. Faire cette mise en scène, c'était du n'importe quoi. C'était du n'importe quoi.
Ça s'entendait. Tous les patients qu'il va perdre dans la matinée, ça va être que ça.
Vous allez voir vous-même. Vous allez le voir.
J'aimerais bien vous
voir. Ils ont tous
tort. À la fin de la journée, quand je vous donne mon numéro de téléphone, juste vous m'appelez, vous me dites, effectivement, vous avez raison. Il va aller voir telle personne, peut-être la personne, elle aura un bras coupé suite, je sais pas, elle s'est coupé le bras dans une scie. Ah non, monsieur, vous avez tort. J'aimerais juste, si vous pouvez me faire juste ce plaisir, je vous donne mes coordonnées, vous m'appelez dans la fin de la journée, juste pour me rassurer vis-à-vis de moi-même, pour me dire, parce que au final, il met le doute aux gens. Non, après, on s'est posé la question, mais ma mère, elle m'a dit, mais t'es sûr que t'as vraiment mal?
Ah oui, c'est vrai?
Je vous jure, c'est vrai?
Oui, je lui ai posé la question.
Il a semé le doute.
Je lui ai dit, est-ce que t'as vraiment mal? Parce que je le vois quand il met ça dans la glace, faire le bandage et tout. Donc après, je lui ai dit, est-ce que t'as vraiment mal?
Vous vous rendez compte?
C'est pour un faux prendre médical.
Oh, j'ai la chienlit en berne. Ras-le-bol des hécatombes. Je réclame une trêve. Avant que ça me retombe.
Les patients, on est utile pour eux parce que on les force parfois à se rendre compte eux-mêmes de leur propre état. Parce qu'il y en a qui s'incrustent dans une situation de non-travailleurs, qui se plaignent tout le temps et puis finissent par obtenir l'invalidité, mais ils sont plus valables pour rien. C'est pour un faux prendre médical.
Allez, ouste le malheur, du balai les engeances. À moi le petit bonheur tout ouaté d'insouciance. J'ai la chienlit en berne. Bougez-vous mon étoile avant que je sois ratatata, ratatata, ratatatiné.
C'est pour un faux prendre médical. Alors moi aujourd'hui on me pose la question, est-ce que l'arrêt est justifié aujourd'hui? Eh bien l'arrêt n'est plus justifié. Donc l'arrêt n'est plus justifié. En conséquence, reprise demain. Je n'ajouterai rien de plus.
J'ai mis en quarantaine l'optimisme et ses oives. Je frémis pour l'avenir, je ne veux pas savoir. J'en ai ras le bol d'en chier comme un rat perpétuel. Je voudrais que ça souffle un poil de mon côté.
C'est pour un faux prendre médical.
Je voudrais changer de signe, tordre un peu le zodiaque. Je voulais ma destinée aux chanceux, aux planqués. J'ai mis en quarantaine l'optimisme et ses oies. Bougez-vous mon étoile avant que je sois ratatata, ratatata, ratatatiné.
Avant qu'il soit ratatiné. Avant qu'il soit ratatiné.
Je
vous avez des douleurs, c'est pas moi qui les sens, mais un arrêt de travail jusqu'au 22 me semble excessif.
Donc en conséquence, cela vous oblige à reprendre le travail demain. En conséquence...
La chkoumoune, le palbol, la chanlite, la malvène, les déboires, la maldonne, le chat noir sous l'échelle. Le coup du c'est trop tard, repassé pour l'aubaine, la carcasse est coriace et oh, abusez pas quand même.
C'est pour un contrôle médical.
Les atouts, connais pas, puis trop con pour tricher, puis les dés sont pipés du côté où y'a le beurre. La chkoumoune, le palbol, bougez-vous mon étoile avant que je sois. Ratatata, ratatata, ratatatiné.
Avant qu'il soit ratatiné,
c'est pour un contrôle médical.
Voyez le médecin qui a fait l'arrêt de travail, a dit le bon docteur Ernaud à Soufiane. Eh bien, c'est ce que va faire Soufiane. Je le rappelle, il travaille à l'hôpital de La Fontaine, à Saint-Denis, dans le 93, dans le 93. Donc, il va revoir ce médecin qui a fait l'arrêt de travail et qui s'appelle le docteur Mazouz.
Le docteur Mazouz, médecin urgentiste aux urgences au SMUR de l'hôpital de La Fontaine. Donc, sur les urgences, on me demande de venir examiner l'employé de l'administration qui travaillait aux urgences parce que apparemment il boitait, il marchait à cloche-pied dans l'hôpital, dans le service. Et j'ai été surpris de revoir Soufiane au travail alors que je pensais qu'il devait arrêter un peu plus. Et à ce moment-là, il m'a expliqué qu'il avait été remis au travail très précocement et que depuis maintenant quelques jours, il n'arrivait plus à marcher sur son pied. Et là, j'ai trouvé une cheville très abîmée et un pied qui avait doublé de volume par rapport à l'œdème. Bien sûr, parce que quand on marche sur une entorse qui, comme on appelle ça, n'a pas encore guéri, eh ben tout ce que vous provoquez, c'est du saignement.
Alors, ce que vous dites là, c'est que ce jeune homme, qui venait pourtant d'être observé par le docteur Ernaud, médecin de Medivérif, est remis au travail le lendemain même de la visite. Vous nous dites que ce jeune homme, finalement, n'était pas guéri, et qu'en plus, le fait qu'on l'ait remis au travail a fait empirer cette situation.
Ben, ça, c'est évident que le fait de l'avoir remis précocement au travail n'a fait que compliquer sa cicatrisation. Il faut quand même comprendre qu'à l'origine, son traumatisme était important. Il aurait dû être plâtré, mais c'est lui qui l'a refusé dans un souci, justement, de ne pas rester en arrêt de travail très longtemps parce qu'il voulait pas causer de tort à ses collègues qui allaient chambouler l'emploi du temps, qui allaient mettre en situation difficile son service. Donc voilà pourquoi il voulait pas être plâtré 3 semaines. Donc voilà, donc... J'allais dire, je n'aime pas moi non plus critiquer mes collègues, mais là, il était évident que cette contre-visite, j'allais dire, c'est ou soit ce médecin n'a jamais examiné une cheville de sa vie, ou soit il avait déjà, avant même de rentrer chez le patient, avait déjà un objectif, c'est de le faire reprendre le travail. Voilà, et c'est un des deux cas.
Pour tenter d'enrayer les arrêts de travail abusifs, certains employeurs n'hésitent plus à faire appel à des sociétés qui mettent en place des contre-visites médicales pour déceler les abus.
France 3 Côte d'Azur, archives non datées présentées sur le site de Medivérif.
Après réexamen des patients, quelques clics suffisent aux médecins mandatés par les sociétés privées pour confirmer un arrêt maladie ou signifier aux salariés que sa guérison est effective. Le tout dans le respect de la législation. Bonjour, et de la déontologie médicale. Le Conseil de l'Ordre des médecins n'y voit pas d'abus à condition de respecter certaines règles.
Soit il estime qu'il est en parfait accord avec le médecin prescripteur. Pas de problème.
Docteur Jean-Jacques Lyon, du Conseil de l'Ordre des médecins.
Soit il y a une zone d'ombre, et à ce moment-là, la seule déontologie lui implique de prendre son téléphone de manière à avoir une explication confraternelle avec le médecin qui a été l'initiateur de l'arrêt de travail.
Et toc, voilà ce que dit la spécialiste de la déontologie. Mais sauf que le docteur Ernaud, le bon docteur Ernaud, ne s'est pas mis du tout en contact avec le médecin prescripteur. Les nombreux médecins, je crois que c'est 2000 ou 3000 qui à travers notre bel hexagone travaillent pour des officines du type Medivérif, je suis pas très sûr qu'ils prennent toujours contact selon leur déontologie avec le médecin prescripteur, ce qui semblerait évidemment naturel. On continue avec Soufiane et son entorse.
Au jour d'aujourd'hui, ce médecin s'est pointé, je vous jure, et de toute façon, je tiens, hein, je vais aller voir le même médecin. Vous pouvez me suivre toute la journée, les trucs, je vais y aller tout à l'heure.
Vous venez de dire à votre fils, je t'avais dit de faire des grandes études.
Ah oui, il a été à la Sorbonne.
Et pourquoi vous avez dit ça?
Parce que déjà, il fait pas le même boulot. Il sera plus respecté.
Et vous avez dit, si t'avais fait des grandes études, t'aurais pas été contrôlé aujourd'hui.
Il a arrêté, il a arrêté en cours.
Bien sûr.
Pourquoi?
Parce que déjà, quand on a,
ils prennent des classes défavorisées, qui n'ont pas des métiers vraiment pour eux. Lui, agent administratif, c'est pas un métier, c'est un métier qui est
bas d'échelle.
Bas d'échelle, quoi.
Aujourd'hui, je suis obligé de changer de filière, de changer de truc, de faire des formations intérieures pour avoir un métier à peu près potable qui va me donner des revenus à peu près potables. Moi, je touche 1 200 € par mois. 1 200 € par mois, et je peux vous jurer. Et vous allez voir, de toute façon, vous allez venir avec moi à Saint-Denis, regardez le boulot de mes collègues.
Là, vous allez comprendre. Là, vous allez comprendre.
Quand moi, je vous dis, j'ai ramassé un mort 3 mois de service, hein. Les 3 premiers mois. Au bout du 3e mois, fusillade à je sais plus dans quel quartier, ils ramènent, ils posent le corps. Aucun de mes collègues est parti, c'est moi qui suis parti le chercher, je l'ai rentré à l'intérieur.
Parce que personne ne voulait faire ce boulot.
Parce que le baptême du feu, c'est moi qui l'ai vécu. Et ça, je peux vous jurer que c'est jusqu'à le jour d'aujourd'hui, dans ma tête, c'est encore l'impact des balles sur ce monsieur-là, je l'ai encore dans la tête.
Je vais
juste te
mettre. Et bien, si on allait à l'hôpital alors?
Il n'y a pas de problème.
On est parti?
On est parti.
Merci.
Au revoir.
Merci
au revoir.
Beaucoup.
À une prochaine. Au revoir.
Ils sont les
clés. Moi, je ne sais
pas. Donc là, on est parti vers l'hôpital?
Ouais, vers l'hôpital de Saint-Denis.
C'est la petite sœur qui nous emmène.
Ouais.
Ouais, je peux pas conduire.
Nous arrivons donc à l'hôpital de La Fontaine de Saint-Denis. Rapidement, à la vue de mon casque et de mon micro, on me demande de bien vouloir patienter à l'extérieur. Je m'exécute. Pendant ce temps, Soufiane demande quelques explications à ses supérieurs hiérarchiques. Ceux-ci semblent préférer s'étonner de la présence d'un journaliste lors de cette contre-visite que de la contre-visite elle-même. Le motif de leur indignation, la vie privée de leurs salariés aurait été enfreinte par ma présence. Qu'elle ait pu être enfreinte par celle du contre-visiteur de l'absentéiste ne semble pas leur traverser l'esprit. Toutefois, la discussion n'est pas possible. Ce n'est que quelques semaines plus tard, après de nombreux appels téléphoniques, que je parviens à entrer en contact avec la directrice des ressources humaines de l'hôpital de La Fontaine, Madame Goldstein. Madame Goldstein, TRH de l'hôpital de La Fontaine.
Nous, les contrôles, c'est essentiellement à visée dissuasive, on va dire.
Dissuasive, c'est-à-dire l'impact est...
Alors ça peut quand même avoir un impact pour les gens qui se font contrôler, puisque quand ça fait une ou deux fois qu'ils se font contrôler et que éventuellement ça tombe une fois on leur demande de revenir travailler plus tôt ou on estime que c'est injustifié, ça se traduit par des retenues sur salaire, donc ça a quand même un effet concret derrière. Et après, de manière générale, ça montre que voilà, la direction est quand même attentive à l'absentéisme.
C'est ça. Quand on demande à Medivérif, moi j'ai été interrogé le patron de Medivérif, il dit voilà, nous on est un moyen de coercition pour nos clients, quoi.
Oui, en quelque sorte. Mais c'est quand même l'objectif recherché. C'est-à-dire, c'est un côté assez dissuasif, ouais, pour garder voilà un peu, c'est vrai, une certaine pression.
Certains de vos salariés confondent congés payés et arrêt maladie? Réagissez grâce au contrôle médical. La contre-visite médicale évite l'abus des fraudeurs. La contre-visite médicale évite de pénaliser la productivité de l'entreprise. La contre-visite médicale évite le mécontentement de la clientèle. Sogirec, spécialiste en contre-visite médicale.
C'est pour un contrôle médical. C'est pour un contrôle médical. À quel étage êtes-vous?
On parle beaucoup en ce moment de la réforme de l'hôpital, l'évolution de l'hôpital vers l'hôpital entreprise, c'est-à-dire un hôpital. Est-ce que la généralisation des contrôles médicaux, ça va vers cette logique? Est-ce que c'est une gestion entrepreneuriale de l'hôpital?
Il y a un lien très indirect, c'est-à-dire que maintenant, effectivement, les hôpitaux vont avoir leur financement en fonction de leur activité, c'est-à-dire qu'on a nos recettes si on fait de la production médicale. Et forcément, pour qu'il y ait de la production, il faut que les acteurs soient présents. Donc si on a très souvent de l'absence sur à nouveau, il faut que c'est une entreprise de main d'œuvre l'hôpital. Il faut qu'il y ait du monde auprès du patient.
Donc sinon, on parle bien de productivité.
Oui, d'efficience, oui. Donc de ce point de vue-là, oui, il y a un lien. Mais pour une fois, on n'a pas calqué une pratique. Les contrôles médicaux, ça se fait beaucoup plus dans le public que dans le privé. Hein.
Si je me trompe pas, le taux moyen d'absentéisme à l'hôpital, c'est 15%, c'est ça?
Alors, chez nous, il est un petit peu moins élevé. Là, dans le dernier bilan social 2007, il est aux alentours de 11,7%.
La moyenne en France, c'est 5%, quoi, c'est ça?
Oui, oui, c'est ça.
Alors, comment on explique ce fort taux d'absentéisme?
C'est une bonne question. Alors, ça concerne la plupart des hôpitaux. C'est encore un peu plus marqué en Île-de-France, de manière générale. Nous, on a beaucoup de mal, justement, à travailler sur ces causes. Et bon...
Madame Goldstein semble donc avoir beaucoup de mal à comprendre les causes de cet absentéisme dont souffre l'hôpital de La Fontaine. Pour certains, les raisons de cet absentéisme ne sont pas si obscures que cela. Parmi ceux-là, le docteur Benazeraf, qui lui aussi exerce à l'hôpital de La Fontaine de Saint-Denis.
Je m'appelle Jean-Michel Benazeraf, je suis médecin urgentiste au SMUR, service mobile d'urgence et de réanimation de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Je pense que oui, il y avait eu en 98 un audit sur l'absentéisme qui avait été missionné par notre hôpital. Cet audit avait révélé que dans les causes de l'absentéisme, la première raison c'était les mauvaises conditions de travail, c'était les non-remplacements, les plannings bouleversés, des gens qui travaillent de soirée à qui on annonce du jour au lendemain qu'il faut revenir le lendemain matin à 7h alors qu'ils ont fini à 9h parce que il manque de personnel, etc. Donc quand on a de la précarité, plus des salaires qui sont pas mirobolants, plus une difficulté de travail, plus des métiers difficiles, ça fait des gens qui ne vont pas être des tirs au flanc, mais des gens qui vont être fragilisés. Alors je pense que, précisons tout de suite que ce qui se passe dans l'hôpital de Saint-Denis n'est absolument pas un cas unique. Nous sommes rentrés dans une logique d'entreprise. Le but et de produire du soin, d'obtenir des recettes et de limiter les dépenses. La variable d'ajustement, c'est le personnel. Et on voit une souffrance au travail qui est en train de grandir. Et c'est dans tous les hôpitaux de France. Hein, je pense qu'on ne peut pas considérer l'absentéisme qui serait comme une démission du personnel, mais comme le symptôme d'une véritable souffrance. Et ce qui me choque profondément dans la démarche du contrôle médical par des organismes privés, c'est qu'au lieu de prendre en amont les causes d'un absentéisme, on est immédiatement dans le répressif. On est dans la coercition, la menace, la suspicion. Et je pense que là est le véritable problème.
La santé dont on se préoccupe, au final, c'est la santé de l'entreprise, plus de celle des gens qui la font fonctionner, quoi.
C'est tout à fait ça. C'est une démarche plus de flicage qu'autre chose. On est profondément choquant dans une pratique médicale déontologique. C'est difficilement supportable. C'est un peu comme si on avait d'un côté des méchants salariés qui ne guettent qu'un moment, c'est celui de s'arrêter pour faire perdre de l'argent à leur patron, et de l'autre côté des pauvres patrons qui vont aller trouver des solutions et engager des fins limiers, des détectives privés pour aller contrôler les vilains salariés qui cherchent qu'à se reposer, qu'à tirer au flanc, et toujours avec la dénonciation des petits escrocs de tir au flanc qui seraient légion en français. C'est une espèce de cercle vicieux, c'est-à-dire les profits des plus gros augmentent de jour en jour, les revenus et les moyens des plus petits diminuent de jour en jour, et puis au milieu, on instaure une espèce de police.
Pourquoi autant d'arrêts maladie sont-ils abusifs? Qui est responsable de cette dérive? Les patients ou les médecins? Existe-t-il une connivence entre le patient et son médecin traitant?
Est-ce qu'il n'y a pas danger que le médecin soit du côté de l'employeur, puisque vous le rémunérez?
Nous, on ne cherche absolument pas à influencer le médecin.
Franck Charpentier, patron de Medivérif.
C'est-à-dire qu'on ne dit pas, l'employeur a un doute sur la réalité de l'absence de son salarié, il faut absolument nous mettre de l'injustifié, ça c'est un discours qu'on tient jamais à un médecin, et si jamais demain on avait le malheur de tenir ce genre de discours à un médecin, à mon avis, on le perdrait comme médecin contrôleur.
Pourquoi?
C'est les gens qui tiennent quand même à à leur indépendance, pas à leur liberté de penser, mais à leur liberté d'agir. C'est-à-dire que quand un médecin met du justifié ou d'injustifié, derrière, il n'y a jamais personne de Medivérif qui le rappelle en disant « Mais attendez, l'employeur nous avait dit qu'il y avait de fortes chances. » Nous, le médecin déclare que l'arrêt est justifié, l'arrêt est justifié.
De son côté, le docteur Ernaud convient que, dans les cabinets, la relation du médecin à son client peut jouer un rôle sur le diagnostic.
C'est sûr, un médecin de famille, c'est un peu comme l'avocat avec son client. Hein. Bien sûr, c'est évident. C'est absolument évident. C'est un baptême de la famille, alors il faut que je m'absente tel jour. Je prends un exemple comme ça, au hasard. Le médecin de famille ne peut pas les vérifier. Il fait confiance à son client, alors sinon c'est plus la peine qu'on se parle.
Il y a une relation client...
Bien sûr, bien sûr.
Ce qui se passe dans les cabinets médicaux n'aurait donc plus lieu dès lors que les médecins sont rémunérés par Medivérif et les employeurs. La question préoccupe Pascal Pascariello, notre chef d'entreprise, au téléphone avec l'un des commerciaux de la société Medivérif.
Voilà, j'ai une entreprise, j'ai quelques doutes sur les arrêts maladie de mes salariés. Donc je voulais un petit peu connaître quel est le fonctionnement de Medivérif. Parce que moi j'ai un petit souci, je vous avoue, j'imagine, enfin... Mais les médecins sont souvent quand même du côté des patients. Et là, dans ce cas-là, ils vont être surtout du côté des salariés, j'imagine. Ils vont plutôt les défendre.
Ben non, justement, parce que c'est nous qui les mandatons. Non, ben non.
D'accord. Bon, ça va, c'est un petit peu comme s'ils faisaient partie de...
Ben c'est un médecin Medivérif, hein.
D'accord.
Les médecins de Medivérif seraient-ils donc mus par autre chose que leur farouche volonté de défendre leur liberté de diagnostic ? Ce n'est qu'une fois l'entretien terminé que Franck Charpentier, patron de Medivérif, accepte d'évoquer le sujet. Bien sûr, c'est du off. Bien sûr, c'est le moment où les bons journalistes éteignent leur micro.
Faut quand même bien être que les médecins qui font ça ne font pas genre vocation.
Je peux pas le dire. Je peux pas le dire au micro, mais ils sont.
Non, mais
je ils sont pas philanthropes. Hein. Je peux pas le dire, mais comment un médecin nous contacte pour faire du contrôle, mais quand on a contacté, c'est une discussion de marchand de tête, clairement.
Oui,
ah,
je sais. C'est clair, mais... Oui, parce que là, c'est quand même des médecins qui sont rémunérés et qui font du chiffre sur la santé des gens. Le code de déontologie médicale est clair quand même là-dessus. Le médecin ne doit pas faire normalement de bénéfices par rapport à la santé des gens.
Effectivement, je suis entièrement d'accord. Et moi, c'est ce que je vous dis. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que le contrôle médical, c'est très bien, ça marche bien, je ne veux pas me plaindre, attention,
ouais,
mais
c'est sûr.
Ça ne suffit pas. Le remède est pire que le mal, c'est pas du tout ça qu'il faut mettre en place.
Bon, merci beaucoup.
Partez sur Paris.
Ouais.
C'est podcastable sur France Inter.
Ouais, déjà, je vous envoie aussi
un CD. France Inter le matin, je vous le donne.
Ouais.
Et puis j'aime bien l'émission de Daniel Mermet l'après-midi.
Ah, bah très bien.
Là-bas,
ah, ouais.
J'y suis.
Ouais, ouais.
Et voilà. Un auditeur attentif. Voilà, on a la chute quand même. C'est une affaire de fric. Ces médecins qui travaillent pour ces officines sont là pour la thune, c'est clair. Hypocrite ou Hippocrate, c'était un reportage de Renaud Lambert. Merci à Soufiane, à sa petite sœur et ses parents, à Abdel Zombo, à Isabelle Fortier, ainsi qu'au docteur Benazeraf et Mazouz. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission et faire tous les commentaires que vous voulez. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org, et aussi donner vos commentaires sur le forum qui s'enrichit et qui devient de plus en plus intéressant. À la technique aujourd'hui, Philippe Duclos et Sandrine Laurent, c'est Koy Nguyen et Raphaël Mouterde qui ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Perry, et Agnès Lebot attend vos messages sur le répondeur de la base J'y suis au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37. Il y a aussi le mail de la base J'y suis qui est daniel.mermet@radiofrance.com. Réclame.